Bonjour Pascal Hérault.
Bonjour.
Pourquoi ce titre, le piège africain de Macron?
Parce que pour nous, avec Antoine Glaser, il y a un piège africain. Le président français va tenter de s'en extirper, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, ses prédécesseurs. Il veut rompre avec une certaine pratique de la France-Afrique. C'est ce qu'il va prononcer en novembre 2017 devant les étudiants de Ouagadougou. Mais il va devoir affronter les réalités. Et les réalités, c'est aussi le lobby militaire français, c'est aussi la nécessité d'assurer la sécurité dans ces zones-là à la demande des chefs d'État de la région. Donc malgré ses efforts, il a pas vraiment réussi à sortir comme il l'avait envisagé pendant la campagne de l'opération militaire au Sahel. Sur le franc CFA, il a réussi un petit peu à bouger les chefs d'État africains, mais on n'arrive pas à couper ce lien monétaire. Il assiste à un recul démocratique en Afrique de l'Ouest et il se rend compte qu'il peut être aussi instrumentalisé par les sécurocrates du continent.
Comment est-ce que vous décririez la façon dont Emmanuel Macron gère ses relations avec ses présidents, y compris ceux qui ne pratiquent pas forcément le jeu démocratique de bonne foi?
Je pense qu'il est dans une réelle politique. On a bien vu que pour des questions d'image, ces chefs d'État n'avaient pas été invités au début du mandat à l'Élysée. Après, ils ont quand même eu le droit à leur rendez-vous élyséen. Mais c'est compliqué à gérer. Les nouvelles générations que l'Élysée voudrait promouvoir sont parfois interdites de se présenter aux élections dans des pays où le scrutin est plié avant même qu'il se déroule. Alors il y a eu quand même quelques avancées. On a vu sur le dossier de la République démocratique du Congo, Emmanuel Macron a travaillé assez étroitement avec ses pairs africains pour pousser Joseph Kabila à sortir du jeu politique.
Et au sujet de ces chefs d'État, une figure se détache, celle du président tchadien Idriss Déby. Vous écrivez à son sujet qu'il incarne le symbole du chef d'État africain intouchable. Est-ce que vous diriez, Pascal Hérault, qu'Emmanuel Macron a réussi à trouver la bonne distance à adopter par rapport à ce partenaire encombrant?
Pas vraiment. Dans la pratique, en fin de compte, on se cherche perpétuellement avec Idriss Déby. On a une condamnation assez molle de ses dérives anti-démocratiques. Et in fine, on a toujours besoin de lui pour mener ses opérations militaires au Sahel. Et quand il est en extrême difficulté, l'armée française lui donne un coup de main en matière de renseignement. Et il va même jusqu'à pilonner des colonnes rebelles avec ses avions.
De manière générale, Pascal Hérault, vous nous expliquez que la France évolue dans un contexte géopolitique qui s'est radicalement transformé, celui, dites-vous, d'un continent mondialisé, redevenu géostratégique. En fait, quelle est la nouvelle donne?
Par rapport aux années 80, où on était encore beaucoup dans un tête-à-tête bilatéral. Aujourd'hui, l'Afrique est courtisée par toutes les grandes puissances. La Chine, la Turquie, l'Inde, avec des puissances régionales africaines aussi, qui sont en train de se développer, de promouvoir des partenariats économiques, même sécuritaires sur le continent. On peut penser au Maroc, on peut penser à l'Afrique du Sud. C'est un continent géostratégique parce qu'il recèle toujours beaucoup de matières premières, des métaux rares qui sont utilisés notamment dans les nouvelles technologies. Il a toujours ses ressources en hydrocarbures. C'est un débouché commercial important pour les pays développés parce que c'est un continent qui croît à une vitesse effrénée avec sa population qui risque de doubler d'ici 2050.
Mais dans ce contexte-là, l'influence de la France est en recul à l'heure actuelle.
C'est ce que montrent les sondages, en tout cas. Le CIAN, le Conseil des investisseurs français qui travaillent sur l'Afrique, réalise chaque année une série de sondages. Et on voit que la France est en très nette perte d'influence sur le continent. Elle n'arrive qu'en sixième position derrière des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la Chine. C'est peut-être dû aussi au fait que les entreprises françaises ont de plus en plus du mal à se renouveler. On voit qu'il y a encore de grands groupes très pressants, mais ce sont essentiellement ce qu'on appelle les paterfamilias. Alors ce sont les Castel, les Bolloré notamment, les Bouygues qui ont un ancrage important depuis des décennies. Mais on a du mal à voir émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs. Les PME ne sont peut-être pas taillé économiquement pour partir à la conquête du continent. Alors le MEDEF, lui, mise beaucoup sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, parce qu'elles pourraient être ces nouvelles entreprises qui partent à la conquête économique du continent.
Un point intéressant dans cet ouvrage que vous co-signez avec Antoine Glaser, c'est cette insistance que vous décrivez chez le président français à aller vers d'autres pays de la région qui sont au-delà des limites de ce qu'on appelait autrefois le précaré. Et cette attirance, par exemple, pour le Rwanda de Paul Kagame.
Oui, Emmanuel Macron, quand il arrive en mai 2017, a constaté que ses prédécesseurs, malgré tous leurs efforts, n'ont pas réussi à renouer une relation pacifique, une relation de coopération avec le Rwanda. Lorsqu'il se rend à son premier sommet onusien, il rencontre en tête à tête pendant 45 minutes Paul Kagame. Ils discutent les yeux dans les yeux de ce que peut être l'avenir de la coopération entre les deux pays. Et là, il va se passer quelque chose. Ils vont décider étroitement de travailler ensemble. C'est le moment où Paul Kagame va prendre les rênes de l'Union africaine. Alors, la France va appuyer fortement Kagame dans l'accomplissement de cette réforme. Et en échange, ils vont essayer de travailler sur des dossiers communs, comme le digital, l'éducation, et plus tard, la francophonie, où il va confier les rênes de l'organisation à l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise.
Et qu'est-ce qui fascine Emmanuel Macron dans la figure de Paul Kagame ?
Un peu comme d'autres chefs d'État africains, c'est la réussite économique du Rwanda. Il n'est pas dupe, il sait que le Rwanda n'est pas encore une démocratie accomplie, mais la femme y joue un rôle très important, elle est très présente dans toutes ces institutions et beaucoup plus même que dans beaucoup de pays développés. Il a des succès économiques indéniables, c'est un champion du digital et donc il incarne aussi cette génération de leaders qui ont réussi à transformer leur pays au sortir d'une guerre.
Vous revenez dans votre ouvrage sur ceux qui façonnent les relations franco-africaines, chacun à son niveau, des hauts fonctionnaires, des députés, des hommes d'affaires. Votre ouvrage, je le signale pour nos auditeurs, est une passionnante galerie de portraits. Et vous nous parlez d'une création d'Emmanuel Macron qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, celle du CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Pourquoi ce CPA au fond et quel bilan ?
Pendant la campagne électorale, Aurélien Le Chevalier, aujourd'hui ambassadeur en Afrique du Sud, mais qui était le monsieur diplomatie de Macron, et Jules Armand Anyambosu, aussi un autre compagnon d'Emmanuel Macron, Aléna, partent du principe qu'il faut promouvoir une nouvelle relation et que pour cela, le président a besoin de relais sur le terrain. Ils vont imaginer de créer ce conseil présidentiel pour l'Afrique. C'est un peu une promotion aussi de la diversité française parce que ses membres sont pour la plupart des binationaux qui ont réussi, ça a valeur d'exemple.
C'est aussi une façon de s'émanciper de l'administration française et des structures qui habituellement gèrent la politique africaine de la France.
Oui, je crois que qu'Emmanuel Macron a acté qu'il est très difficile de faire bouger l'administration française. On l'a vu précédemment dans le combat sur le CFA. Il faut se rappeler que sous François Hollande, Thomas Mélogno, alors conseiller adjoint puis conseiller principal à l'Élysée, avait essayé de demander à Bercy de réfléchir à l'évolution du lien monétaire avec l'Afrique. Il n'y était pas parvenu. Donc on passe par des relais comme ça et on appuie aussi fortement politiquement pour essayer de faire avancer les choses. Et le CPA était imaginé un peu pour ça, pour contourner peut-être un peu certaines raideurs de pensée de l'administration ou au moins apporter des idées neuves et pour pouvoir essayer après de les mettre en œuvre, ce qui n'est pas toujours facile dans l'écosystème français. Ce n'est pas un succès total parce que fondamentalement, il y a un manque de moyens pour promouvoir ces nouvelles politiques. Il faudrait beaucoup plus de ressources, mais il y a une tentative, il y a un essai, il y a quelques réussites.
Merci Pascal Hérault.
Merci Laurent Corot.